organisé un workshop où on a commencé à se connaître. Donc il y avait une partie des intervenantes qui viendront aujourd'hui qui étaient présentes. Et par la suite, donc on a fait le projet de publier et on a engagé parallèlement deux numéros de revue, donc les Cahiers du genre. Et comme on avait, au départ, c'était les Cahiers du genre. Et comme on avait énormément de matière et qu'il y avait une grande partie sur les pays du monde musulman, donc on a partagé en deux et on a aussi lancé la publication de la revue Hawa. Voilà. Et donc la journée, cette journée, elle est destinée à présenter les deux numéros de revue. Donc le matin, il va y avoir les Cahiers du genre. Donc l'essentiel des communications, sauf une sur la France. Celle qui est sur la France, bon, on l'a pas pu venir. C'est quelqu'un de la maison d'ailleurs. C'est les et elle n'était pas disponible. Et l'après-midi, pratiquement aussi, on a une grande partie, en tout cas, des personnes qui ont publié dans la revue Hawa. Donc le thème de ce numéro sur femmes et droits de propriété vient du croisement de deux problématiques. D'un côté, une interrogation sur l'accès des femmes à la propriété dans le monde contemporain, en particulier comment est mise en application la Convention des Nations Unies sur l'élimination des discriminations à l'égard des femmes, la CEDAW, dans les différents pays l'ayant ratifiée. Cette convention reconnaît les droits des femmes à posséder, hériter, administrer une propriété en leur nom propre et requiert les mêmes droits pour les deux époux dans le respect de leur possession, acquisition, gestion, administration, jouissance et disposition de la propriété. Mais notre démarche était de ne pas appréhender le droit de propriété comme une catégorie isolée, ce que fait par exemple la théorie économique des droits de propriété, mais de le replacer, de s'interroger déjà sur ce que c'est que le droit de propriété et de le replacer dans la diversité des systèmes de droits portés chacun par un langage, une culture, une histoire, une conception du monde. Et donc il ne s'agissait pas tant d'évaluer l'application de la Convention de l'ONU que d'examiner en quoi elle s'inscrivait dans un processus de généralisation du droit de propriété privée individuel, considéré comme le plus moderne et le plus favorable au marché et à l'efficacité économique. Comment interpréter la problématique féministe de l'empowerment lorsqu'elle fait de l'accès à la propriété privée individuelle un élément clé de l'autonomisation des femmes? Quels sont pour les femmes les enjeux de cette transformation qui touche aussi les systèmes de droit? Et donc ça, c'est la première problématique. Et la deuxième problématique, je vais laisser Randy en parler. Ça a été une réflexion issue de notre collaboration, parce qu'on avait une autre collaboration dans le cadre de séminaires de recherche sur le WACF que Randy a organisé dans le cadre d'un GDRI du CNRS. Alors peut-être que tu peux en parler un peu de ça. Mm-hmm. Voilà. Je te laisse parler.
Ok, merci Fatiha. Et je te remercie de notre collaboration. J'étais très heureuse de participer avec toi. Déjà, les deux rencontres organisées à Londres, comme tu viens de dire, dans le cadre de BRISMES, qui est la Société britannique d'études sur le Moyen-Orient, et une autre rencontre la même année, mais deux mois plus tard, je crois que c'était en juin 2015, sur des questions, enfin notre panel en tout cas, sur des questions de genre et droits de propriété, notamment au Moyen-Orient, et notamment à partir de la jurisprudence. Et donc je vais juste dans quelques minutes parler, Fatiha vient de dire que nous avions eu entre 2012 et 2016 un GDRI, donc un groupe de recherche international, sur les questions des fondations pieuses, les WACF ou les HABUS, en sens large du terme, donc dans le, pas seulement au Moyen-Orient proprement dit, mais également en Iran, également ici en Europe. Donc l'encadrement jurisprudentiel religieuses et de l'État étatique également sur des opérations, sur la création de ces fondations et, les opérations liées à la rentabilisation des propriétés. Mais notamment en ce qui concerne notre collaboration, entre autres Fatiha et moi, c'est de l'angle genre. Donc comment les femmes et les hommes, quelles sont les différences, s'il y en a, il n'y en a pas toujours, mais quelles sont les différences vis-à-vis des femmes et des hommes, catégorisées comme ça dans la jurisprudence, quand ça existe, vis-à-vis de la création des fondations et aussi de leur utilisation des propriétés qui sont allouées par des femmes et des hommes à ces propriétés, à ces fondations. Et à quel but, à quel objectif? Qui sont les bénéficiaires dans la société? Est-ce qu'il y a une différence genrée? Il n'y en a pas toujours une différence genrée entre des fondations qui sont créées par des hommes et des fondations qui sont créées par des femmes. Et donc, il y a toutes les questions intersectorielles qui rentrent là-dedans aussi, parce que très souvent, ce sont des questions socio-économiques plus que genre, quand on commence à faire le tableau.
Bon, c'est tout pour le moment. Le contexte institutionnel du GDR.
Oui.
On en parlera l'après-midi.
Voilà. Oui, d'accord. Okay.
Et ton projet peut-être de le relancer aussi.
Oui, Inch'Allah. Oui, donc le GDRI, c'est un outil structurel du CNRS. Et donc GDR, groupe de recherche, quand c'est un GDRI, un groupe de recherche international, c'est-à-dire que ça va au-delà de l'Europe, enfin au-delà de la France, et ensuite au-delà de l'Europe. Et c'est vraiment un outil très, très intéressant. Je vais juste parler une minute là-dessus, parce que ça donne vraiment un budget déjà, et ça donne une grande liberté. C'est un projet, il faut avoir un projet, un calendrier sur 4 ans, qui par la suite peuvent être modifiés au fur et à mesure du déroulement de la recherche. Mais ce GDRI est disponible à tout chercheur. Bon, c'est un dossier fomenté, et puis un comité d'analyse, un comité d'évaluation, tout n'est pas pris. Mais lorsque le sujet ou le projet est retenu, il y a une très grande liberté d'action. Donc, on a eu un séminaire à l'École des hautes études sur 6 ans, qui a commencé avant le GDRI. Et ensuite, les 2 dernières années, nous avions géré ça ensemble, Fatiha et moi, avec un chercheur iranien qui sera là tout à l'heure. Donc, ce qui est intéressant, puisque nous avions eu 3 disciplines dans la gestion de ce séminaire, historienne, économiste pour Fatiha, et pour Mohamed Reza Nehastani, islamologue, chiite surtout. Donc, c'était intéressant. Un certain nombre de personnes ici ont donné des communications lors de ce séminaire, qui était un séminaire mensuel, donc sur 6 ans. Sinon, dans le GDRI, il y a eu des publications de personnes présentes ici. Moussa Srour, de l'Université de Beyrouth, avait organisé à 2 reprises une rencontre en Palestine dans le cadre du GDRI, une collaboration entre son université et le GDRI. Et Ouden Bouroufala, de l'Université de Mascara, en Algérie, également, c'était en juin, fin juin 2015. 14? Oh, 14. Oui, les années passent trop vite. 2014, et qui avait également organisé une rencontre avec M. Saïdouni, je ne néglige pas de citer son nom, et en mémoire aussi de M. Raymond et d'autres personnes disparues. Et ça a été publié il y a un an et demi, pas longtemps. Donc, on passe tout de suite.
Ceux qui ont financé cette journée.
Oui, tout à fait. C'est pour ça que je vais aller voir la liste. Oui, donc on peut revenir là-dessus tout à l'heure, l'après-midi, lorsqu'on présente la deuxième publication. Mais Fatiha et moi, nous aimerions remercier très chaleureusement toutes les instances qui nous ont permis financièrement et de manière organisationnelle de créer cette journée et de vous inviter de venir ici pour cette journée. Donc c'est avant tout c'est le laboratoire de Fateh Talahit, le GTM Crespa de cette maison CNRS rue Pouchet, qui avant tout a donné la possibilité de créer et de accueillir cette journée. Moi-même, Fatiha, donc chercheuse au CNRS, économiste. Moi également, chercheuse au CNRS, historienne. Je remercie mon labo, TELEM, qui est un labo qui travaille sur la Méditerranée à Aix-en-Provence, MMSH. Également, je remercie les universités Paris 8, Paris Nanterre. Je remercie réseau thématique de la MMSH, Maison méditerranéenne des sciences de l'homme, qui s'appelle GenderMed. GenderMed, penser le genre en Méditerranée, qui est subventionné par la MMSH et par la vice-présidence de l'égalité femmes-hommes et la lutte contre les discriminations. C'est AMU, dans Aix-Marseille Université. Parce que nous sommes en collaboration surtout avec Fatiha donc, entre Paris et Aix, avec les instances que je viens de citer, mais aussi le GIS Genre qui nous a lancé en fait sur l'affaire avec une bourse que Fatiha avait, elle a dit tout à l'heure qu'elle a pu obtenir avec moi comme partenaire, elle a été l'initiatrice.
C'était au début.
Au tout début. Mais c'est grâce à ça qu'on a commencé à faire tout le reste. Et last but not least, les cahiers du genre qui va commencer cette journée, qui également participe intellectuellement et financièrement à cette journée. Je remercie également dernièrement Hawa. C'est la revue qui sera le centre de notre de nos études de cet après-midi.
Alors, Randy, je vais te...
Nous allons commencer cette journée avec Fatiha Talahit, qui est chercheur au CNRS, économiste qui appartient au labo, je l'ai dit tout à l'heure, GTM Crespa, ici dans la maison CNRS rue Pouchet. Et Fatiha, très brièvement, elle a un CV très intéressant qui est tout à fait international, avec des études faites à l'échelle internationale en France, en Algérie, avec des interventions qui parcourent les différents continents. Tout dernièrement, même si ça ne fait pas partie peut-être de la présentation aujourd'hui, mais les dernières années, elle travaille sur les interventions économiques de la Chine en Algérie. Et j'ai pu entendre une de tes interventions là-dessus, je crois que c'était en Londres où tu as présenté ça. Donc, Fatiha est également, en dehors de séminaires que j'ai évoqués tout à l'heure, l'école des hautes études, cette année, c'est la deuxième année, si je ne me trompe pas, que tu diriges un séminaire avec deux autres économistes à Paris 8, à Paris Nanterre, dont la dernière séance a eu lieu la semaine dernière avec Moussa Sroor, qui est intervenu à l'invitation de Fatiha Talahit. Ici, il est question, pour lui laisser le temps, ici, il est question de parler de... C'est l'article d'ouverture, et moi, je vais dire que c'est même la colonne vertébrale, si on peut le dire comme ça, de nos études en ce qui concerne le genre... Nos problématiques en ce qui concerne le genre et les propriétés, les droits, notamment les droits de propriété. Il y a peu d'études qui conjuguent les deux choses, genre et droits de propriété, non seulement utilisation, mais les droits qui sont les lois finalement, et l'utilisation ou pas de ces droits dans la pratique. Je passe la parole à Fatiha. Donc la présentation est intitulée « Pour une économie politique genrée ». des droits de propriété.
Merci Randy. Alors, c'est vrai que depuis quelque temps, je travaille beaucoup sur les droits de propriété parce que c'est un des thèmes, c'est un des thèmes centrales de l'économie libérale, hein, pour dire, et de la globalisation. Et c'est un argument pour dans le contexte de la transition à l'économie de marché, de la libéralisation, on demande aux pays de sécuriser leurs droits de propriété, de les renforcer, de les clarifier. Et c'est une pression très très forte qui passe par des évaluations sur la qualité des institutions et qui va conditionner les aides, qui va entrer dans l'évaluation du climat des affaires pour l'attractivité des économies, etc. Donc il y a une pression très très forte. Et à côté de ça, il y a tout un courant en économie aujourd'hui. La question des droits de propriété, c'est ancien, hein, c'est le socialisme, il s'est quand même appuyé sur la remise en cause justement de la propriété privée, on a tenté de l'abolir, il y a eu toutes les expériences socialistes et certaines assez dramatiques, donc c'est difficile aujourd'hui de défendre cette thèse de l'abolition de la propriété privée, mais aujourd'hui il y a tout un courant en économie qui revient sur ces questions et en fait qui essaye de montrer, notamment quelqu'un comme Piketty sur les inégalités ou le courant des commons sur qui essaye de montrer que le droit de propriété tel qu'il existe, enfin ce droit de propriété standard que la science économique, dont la science économique fait la promotion, serait responsable de l'accroissement des inégalités, dont les inégalités de genre. Et au-delà de la destruction de l'environnement, d'un système en fait qui présente beaucoup de contradictions et de dangers. Et donc il y a une réflexion sur des alternatives, mais des alternatives qui déploieraient un petit peu le droit de propriété sous forme de faisceau de droit, où on serait plus dans la définition du droit romain usus fructus abusus, mais qu'il y aurait une sorte de gouvernance des droits de propriété qui obligerait à être respectueux de l'environnement, à être respectueux ne pas provoquer ou produire des inégalités, etc. Donc il y a tout ce débat et qui va assez loin, même au sein de l'économie orthodoxe, puisqu'il y a des économistes qui vont jusqu'à utiliser les arguments économiques de l'efficacité, de l'efficience, de la productivité, pour dire que finalement, on n'aurait peut-être plus besoin du droit de propriété tel qu'il existe aujourd'hui, on pourrait s'en passer, on pourrait s'organiser autrement. Donc il y a toute une réflexion, et c'est alors dans ce cadre-là, bon, j'ai fait ce travail et puis je suis en train aussi de mener une réflexion sur le cadre, sur les problèmes de la désindustrialisation en Algérie et comment on peut l'expliquer par le problème de la propriété qui est très compliqué parce qu'il y a une accumulation des strates avec la colonisation, avec la période socialiste, avec la transition à l'économie de marché, et c'est une situation qui paralyse complètement l'initiative économique dans ce domaine. Alors, pour revenir à mon propos, le résumé, Randy l'a déjà dit. Donc, je présenterai l'exposé en deux grandes parties. Donc, sur l'égalité de genre des droits de propriété et la propriété des femmes comme un nouvel enjeu, bon, ce que je viens de dire un peu. Et surtout sur un retour sur l'histoire des droits de propriété des femmes en Europe occidentale, parce que cette histoire va marquer, en fait, tout le reste à travers l'expansion coloniale et va marquer, et le fait que le système droit de propriété occidentaux, on va dire continental et common law, vont s'imposer dans le monde entier. Alors j'ai parlé de la CEDAW, donc la conférence sur la lutte contre les discriminations. Donc cette conférence, elle préconisait des mesures nationales. Elle, elle, Bon, elle a eu lieu en 79 et après elle a été suivie en 80 d'une conférence à Copenhague qui préconisait des mesures nationales plus fortes visant à garantir aux femmes la propriété et le contrôle de leurs biens et à améliorer la sauvegarde de leurs droits en matière d'héritage, de garde d'enfants et de nationalité. Et par la suite, la déclaration de la Conférence mondiale des femmes de Nairobi en 85. Par contre, elle n'évoque les droits de propriété que deux fois à propos de la réforme agraire et dans un article spécifique sur les droits de la femme mariée. Et 10 ans après, la plateforme de Pékin va les citer 9 fois, donc la propriété foncière qui est la base, hein, et elle va évoquer également la propriété intellectuelle puisque il va y avoir les droits de propriété intellectuelle qui vont être signés à l'OMC, les droits de succession et l'accès au crédit. Donc on voit comment ça s'est fait très lentement. Pendant longtemps, il n'y a pas eu grand-chose, et que à partir de 85 et à partir surtout de la plateforme de Pékin, donc en 95, ça va se déployer sur d'autres aspects que la propriété foncière, donc la propriété intellectuelle, les droits de succession, l'accès au crédit, etc. Même on va parler d'inclusion financière. Et depuis, les études se sont multipliées sur les pays en développement. Alors une pionnière, c'est Bina Agarwal qui a écrit dès 94-95, qui a mis l'accent sur l'importance de la propriété et le fait que pour elle c'était encore plus important que l'emploi comme pour analyser les écarts de genre et le statut des femmes, le statut économique des femmes. Donc elle a travaillé sur l'Asie, mais elle affirme que ces conclusions sont valables de manière plus générale. Alors, il y a eu une conférence qui a été d'ailleurs adaptée un peu aux conditions féminines, puisque c'était une conférence électronique, donc ce n'était pas une conférence où les gens se sont déplacés. C'était en 95, donc c'était les premiers, c'était quand même encore assez nouveau de se réunir de manière électronique, avec la participation de plus de 170 personnes de 29 pays pour faire l'état des lieux. Et donc les études se sont multipliées sur les pays en développement, en Amérique latine, en Inde et sur plusieurs pays des trois continents, des pays en développement. En particulier, des travaux sur qui évaluent les politiques de distribution aux femmes de titres de propriété sur la terre et le logement, sur le logement, les titres joints. Et bon, la plupart de ces travaux montrent que, en fait, toutes ces politiques, souvent, vu les rapports dans lesquels se trouvent les femmes, même si on leur donne des droits de propriété, même si on leur donne de la terre, elles finissent par les écarts de genre finissent par se reproduire d'une manière ou d'une autre. C'est justement ce phénomène de concentration des droits de propriété, c'est quelque chose qui est inhérent en fait aux droits de propriété privés individuels qui s'autonomisent et qui peuvent se vendre facilement. C'est un peu ce qui s'est passé par exemple dans l'Angleterre avec le mouvement des enclosures. À partir du moment où on a découpé la terre et qu'on l'a distribuée à des personnes privées individuelles, les gens se sont mis à vendre et il y a eu une concentration entre les mains de ceux qui pouvaient acheter. Donc, tandis que dans les structures traditionnelles, notamment avec l'indivision, la propriété se maintient et avec des droits, on en parlera dans le cas du Cameroun, des droits d'usage pour les femmes qui vont disparaître avec la modernisation de la propriété. On a fait aussi le lien entre la distribution de titres de propriété aux femmes et la réduction de la pauvreté. Le dernier article qui date de 2017 qui fait le point sur la question n'est pas très concluant non plus, c'est-à-dire que c'est pas évident du tout, que c'est un petit peu l'argument de dire qu'on va réduire la pauvreté, mais c'est pas concluant. Et puis, je vous avais dit qu'on a intégré aussi la question de l'inclusion financière, donc de l'accès aussi au titre financier et à la finance pour les femmes. Alors, parmi les marqueurs de discrimination et d'inégalité de genre dans l'économie, on retient en général la division sexuelle du travail, l'assignation des femmes à la sphère domestique et la double journée de travail, les écarts de salaire, les barrières à l'emploi et la spécialisation dans les métiers et secteurs dévalorisés, les barrières à la promotion dans l'emploi, mais rarement les droits de propriété. Ça, c'est peut-être un travers lié au fait que les études féministes sont beaucoup des gens de gauche, et les gens de gauche n'aiment pas la propriété, ils ne s'intéressent pas à la propriété. Je pense que ça peut avoir joué un rôle. Alors, ce n'est que récemment, donc ça a apparu dans les Gender Studies, donc soit à propos de la Terre, des travaux ou d'autres actifs, Gender Asset Gap, par exemple. Et ces travaux concernent beaucoup de disciplines, sociologie, anthropologie, mais droit aussi, mais moins, plus rarement l'économie. Bon, j'ai cité celui de Elissa Brownstein et Nancy Folbre, To Honor and Obey. Honor and Obey, c'est quand on se marie qu'on... elle cite quelque chose qui a été changé que récemment dans le droit en Angleterre et aux États-Unis, le fait que en se mariant, les femmes devaient jurer d'être d'obéissance au mari. C'est quelque chose qui restait assez tard. Hein. Alors, comment expliquer ce silence de l'économie sur les droits de propriété, des femmes si l'on tient compte de l'importance de la propriété pour la pensée économique? Dès sa constitution, l'individualisme possessif, de la théorie libérale et sa critique par les courants socialistes, mais également aujourd'hui avec l'intérêt renouvelé pour les droits de propriété dans le contexte de la généralisation de l'économie de marché et de ses institutions. Cette question est centrale dans les théories contemporaines du développement qui mettent l'accent sur le rôle et la qualité des institutions, donc la théorie néo-institutionnaliste qui établit un lien entre développement économique et qualité des institutions et qui va mesurer la qualité des institutions, notamment par la nature des droits de propriété, le fait que leur définition est plus ou moins complète, c'est-à-dire justement que ça se rapproche de la définition du droit romain, qui soit formalisé, qui soit... et de leur application, enforcement. Ça s'appuie sur la théorie des coûts de transaction ainsi que sur la théorie économique des droits de propriété qui étudie l'effet des droits de propriété sur le comportement des agents individuels à travers les incitations et par là sur le fonctionnement et l'efficience du système économique. Donc le fait que quand on est propriétaire et que les droits de propriété sont sécurisés, on va plus prendre de risques, on va plus investir. Voilà, cette théorie affirme que, sous l'hypothèse de liberté des rapports contractuels entre agents, le modèle de droit de propriété qui tendra à s'imposer sera le plus efficient. C'est ainsi que, arguant de la suprématie historique de l'économie occidentale, on considère le modèle occidental de propriété privée individuelle comme le plus efficient. Ça, c'est la théorie de Douglas North qui, d'ailleurs, laisse de côté la question de la Chine, parce qu'aujourd'hui, quand même, l'essor économique de la Chine interroge sur les droits de propriété en Chine qui devraient être considérés aussi comme efficients. De là, la théorie économique s'est dotée d'une version simplifiée et épurée de ce type de droits de propriété, sachant qu'en Occident comme ailleurs, la réalité des droits de propriété est complexe, produit de l'histoire locale, la culture, les institutions. S'agissant des pays en développement, au contraire, on pense que si leurs économies ne réussissent pas à décoller, c'est que leurs droits de propriété sont inefficients. Le modèle de propriété privée considéré comme universel par la théorie économique leur est recommandé avec insistance comme une panacée pour résoudre leurs problèmes de développement, notamment pour attirer les investissements étrangers. C'est bien dans ces termes que cette question est posée aujourd'hui aux pays en développement, sommés de moderniser leur système de droits de propriété pour les rendre plus efficients, tout en accélérant l'accès à l'égalité de droit entre hommes et femmes. Mais ces deux objectifs convergent-ils? Donc, chez les économistes féministes, justement, cette idée qu'il ne faut pas mettre que l'efficience en priorité, il faut mettre sur le même plan l'égalité de genre, et souvent, elle diverge avec l'objectif d'efficience. Alors, pourquoi un retour sur les droits de propriété des femmes en Europe occidentale? Ce n'est que très récemment que des économistes se sont intéressés aux inégalités de genre dans l'accès à la propriété comme cause de l'infériorisation économique des femmes, tant dans les pays industrialisés qu'en développement. Les droits de propriété ne sont plus regardés seulement sous l'angle de leur efficacité économique, mais également de leurs effets en termes d'égalité de genre et d'empowerment des femmes. La question est de savoir si ces objectifs... Bon, donc c'est ce que je dis sur la convergence. Alors, la dépossession des femmes de la femme mariée de ses droits de propriété. C'est au moment où les pays européens, et en premier lieu la Grande-Bretagne, connaissent un essor économique sans précédent, que les femmes sont le plus dépourvues de droits de propriété. Dans l'Angleterre du XVIIIe siècle, la femme mariée est soumise à un système légal, la coverture, lui ôtant toute personnalité juridique et la privant de droits de propriété, y compris sur les revenus de son travail au profit du mari. Alors, ce droit de coverture, c'est le fait qu'elle est couverte par, littéralement par l'homme, inscrit dans la common law en Angleterre et aux États-Unis pendant la majeure partie du XIXe siècle. La couverture qui fixe le statut juridique des femmes mariées fut théorisée par le jurisconsulte William Blackstone, qui écrivait en 1765 « Par le mariage, le mari et l'épouse deviennent légalement une seule personne. L'être même, l'existence légale de la femme, est suspendue pendant le mariage, ou du moins incorporée et consolidée dans celle du mari. Elle exécute tout sous son aile, protection et couverture. En se mariant, les femmes devenaient légalement des non-personnes. La common law transférait automatiquement la totalité de la propriété personnelle d'une épouse, aussi bien le contrôle de sa propriété réelle que le revenu que l'on peut en tirer, dans les mains de son mari. Ce système a duré jusqu'à la fin du XIXe siècle. Il a couvert l'ère victorienne, contemporaine de la révolution industrielle, déterminante pour le développement du capitalisme et de ses institutions. Et donc, ce sont les Married Women's Property Acts en 1872 et en 1882, au Royaume-Uni, qui vont être suivis par la plupart des États nord-américains et des provinces canadiennes soumis à la common law, qui vont finir, après une lutte des femmes contemporaines de celle d'ailleurs de la lutte pour des suffragettes, pour le droit de vote, qui vont finir par accorder aux femmes mariées le droit d'hériter, léguer, posséder et disposer de leurs propriétés, conserver et dépenser leur salaire, gérer leurs affaires, entrer dans des contrats. Cette nouvelle législation s'inspirait, ce qui est intéressant, d'un régime juridique parallèle à la common law, basé sur les tribunaux d'equity, equity courts, qui reconnaissaient la propriété séparée des femmes dans un contrat de mariage. Un patrimoine distinct pouvait être créé pour l'épouse et mis sous forme de trust pour son seul usage séparé. Non soumis au contrôle marital ni attaché à ses créanciers, ce patrimoine était généralement géré par un trustee, un administrateur. Ce contrat pouvait donner aux femmes des droits de propriété, y compris celui de contracter et de faire un testament. Mais le recours à ces tribunaux permettant aux femmes mariées d'obtenir un statut spécial, les protégeant des pires abus de la common law, était coûteux. Et donc, c'est ce statut qui a été généralisé, en fait, avec les Married Women's Property Acts. Et ce qui fait que l'Angleterre et les pays de la common law prenaient ainsi une avance sur le continent où la législation mit plus de temps à évoluer. En France, ce n'est qu'en 1965, 17 ans après la Déclaration universelle des droits de l'homme, qu'une réforme des régimes matrimoniaux mit fin à l'incapacité juridique de la femme mariée, lui permettant notamment d'ouvrir un compte en banque ou de signer un contrat de travail sans consentement marital. Contrairement à une vision stéréotypée, donc, cette dépossession légale de la femme mariée ne venait pas du Moyen Âge, au cours duquel les femmes ont pu jouir de droits de propriété relativement plus étendus, dont des droits d'usage, dans le cadre de systèmes coutumiers, notamment. Et donc, ce droit de couverture fut mis en place au XVIIIe siècle et maintenu jusqu'au début du XXe. Ainsi, en Italie, au XVIIe siècle, l'Italie n'existait pas encore, c'est une étude sur Rome et Gênes, les droits de propriété des femmes, s'ils étaient limités, soit par un statut particulier des biens, donc la dot, soit un statut particulier de leur titulaire, existaient, dans le sens où, à l'intérieur de ces statuts, les femmes pouvaient accéder à la propriété. Bon, il n'y avait pas d'égalité, mais elles y accédaient. Étudiant les problèmes juridiques qui découlaient de ces statuts, Renata Ago remarque que pour le juriste Giovanni Battista de Luca, une femme, il disait, parce que ça posait beaucoup de problèmes, ces statuts différents, il écrivait « Une femme n'est pas une mineure, chez qui la volonté serait encore en formation, et lorsqu'on l'a bien instruite et avertie sur les conséquences de ses actes, personne, ni le juge, ni le parent, ni le curateur, ne pourra lui défendre de faire ce qu'elle veut, car étant maîtresse de ses propres biens. » Mais cet auteur regrette que ce juriste n'ait pas fait le pas suivant, n'ait pas accompli le pas suivant, ni lui, ni aucun autre théoricien, jusqu'à envisager l'équivalence des droits de disposition des femmes avec ceux des hommes. Et en fait, elle poursuit quelque chose de très intéressant. Elle dit « La solution à l'encombrante présence du statut particulier des femmes est alors recherchée dans l'interprétation restrictive de son champ d'application, interprétation restrictive qui tentait justement de la considérer comme égale de l'homme, en fait, dans sa capacité, jusqu'à jusqu'à ce que la complète spoliation des droits de disposition des femmes mariées par le Code Napoléon vienne apporter un peu d'ordre dans ce domaine. Et ça, c'est très intéressant. En France, le Code Napoléon, promulgué en 1804, 2 ans après le rétablissement d'esclavage dans les colonies, invente l'incapacité de la femme mariée. C'est un processus contradictoire dans la mesure où le Code civil français élaboré entre 1793 et 1800 proclamait les idéaux d'égalité de la Révolution française. Ce Code de Napoléon, pourtant, n'est pas un héritage du passé, mais au contraire, il est contemporain de la modernité européenne telle qu'elle se met en place au XVIIIe siècle, avec la codification, l'unification et la formalisation du droit. En fait, ce que je veux dire, c'est que ce droit moderne, il nécessitait de simplifier en fait le droit, et le statut de la femme mariée était complexe, et donc la simplification est allée dans le sens de la nier complètement et de lui ôter toute existence juridique. Ça a été comme ça qu'on a réglé le problème de la modernisation du droit avant que les femmes ne réagissent, les femmes mariées surtout, pour demander l'égalité avec les autres femmes, pas avec les hommes, mais avec les femmes non mariées qui elles étaient considérées comme égales des hommes. Donc ce droit correspond à une profonde transformation de la notion de propriété elle-même et son adaptation au nouveau marché capitaliste. Ainsi, l'histoire des droits de propriété des femmes en Occident montre que l'émergence du capitalisme va avec une régression sans précédent de l'accès des femmes à la propriété, dont le point le plus bas est la coverture en Angleterre. Alors, cette histoire, pourquoi je l'évoque, c'est qu'elle a 3 implications à mon avis. Cet épisode donc, de l'histoire des femmes en Europe a des implications qui vont bien au-delà de ces pays. La première implication, c'est précisément à ce moment que se mettent en place les fondements de la science économique. Donc c'est en effet durant ces 2 siècles que vont se succéder les principales écoles, physiocrates, classiques, socialistes, marginalistes, néoclassiques, en particulier en Grande-Bretagne, pays d'élection de la science économique naissante, qui a vu naître les grands noms du courant classique, Adam Smith, David Ricardo, et néoclassique à travers l'école de Manchester et de Cambridge. En d'autres termes, au moment où cette pensée était en constitution et que les débats tournaient notamment autour de la définition de l'agent économique, les femmes étaient non seulement largement exclues de la propriété, mais les femmes mariées n'avaient pas d'existence juridique, donc elles étaient exclues du revenu de leur travail, donc, et pire encore, la femme mariée n'avait pas de personnalité juridique. Or, l'individu possessif de la théorie économique suppose le self-ownership, c'est-à-dire d'abord se posséder soi-même, ce que les femmes ne pouvaient pas faire. C'est la possession de soi. On comprend dès lors pourquoi, lorsque l'économie classique puis néoclassique se dote d'une définition de l'agent économique comme personne propriétaire de facteurs de production, c'est-à-dire le travail, du capital et de la terre, les femmes en sont a priori exclues. Ensuite, donc deuxième conséquence, comme nous l'avons évoqué plus haut, cette exclusion des femmes, notamment des épouses, de la propriété, bat en brèche la croyance qu'un système de droit de propriété efficient du point de vue économique, du point de vue de la croissance qu'il induit, converge nécessairement avec l'égalité de genre. Il tendrait même à dire le contraire, à supposer que, comme l'affirment les néo-institutionnalistes, la croissance de l'économie britannique au XVIIIe et XIXe siècle serait effectivement due en grande partie à ces institutions, à la supériorité de ces institutions, notamment ses droits de propriété. C'est la théorie de Douglas North. Troisième implication, c'est également à cette époque que les systèmes juridiques français à travers le Code civil et britannique, la Common Law, se répandent dans le monde, tant sur le continent européen conquis par Napoléon que dans les empires coloniaux, essentiellement par la force des armes. Donc l'exportation, alors je termine là-dessus, hein, sur l'exportation de la dépossession des femmes avec la colonisation et l'empire. Notamment, bon, on y reviendra cet après-midi, dans le monde musulman, où les femmes, et particulièrement les femmes mariées, jouissaient de droits de propriété bien plus étendues que les européennes à la même époque, ce qui est remarqué d'ailleurs par les orientalistes, la régression va être plus importante pour les femmes musulmanes que pour les femmes européennes. En effet, sous la norme islamique, la femme mariée pouvait posséder, hériter et léguer ses propriétés. Bon, il n'y avait pas d'égalité entre hommes et femmes, hein, c'est dans le contexte du patriarcat des sociétés musulmanes, mais elle avait légalement un plus grand pouvoir de contrôle sur ses biens que dans le droit romain, car elle détenait non seulement la possession, mais aussi la gestion des propriétés qu'elle apportait avec elle ou avait acquises pendant le mariage. Sous ce régime de séparation des biens, aucun des deux conjoints n'avait de droit légal ou d'intérêt dans la propriété de l'autre. Avec l'hégémonie occidentale, la plupart des pays dominés ont dû adopter le droit de la puissance dominante, auquel des éléments de leurs propres droits et coutumes furent plus ou moins intégrés. Les droits de propriété, du fait de leur rôle crucial pour l'appropriation des terres et des ressources, furent en règle générale réécrits dans l'intérêt du colonisateur. Par exemple, en Algérie, on s'est appuyé sur une disposition du Code civil qui sépare les droits réels, enfin, les statuts réels, les droits réels des droits des personnes pour séparer justement les droits de propriété, en faire des droits réels et inventer un droit des personnes, de statut personnel, qui est une invention de la colonisation à partir, qui est une réinvention du droit musulman, dans lequel justement il y avait les droits de succession. Et ça explique pourquoi c'est si compliqué de toucher aux droits de succession. Non pas parce qu'ils sont inamovibles, on ne peut pas les bouger parce que c'est dans le Coran, mais c'est parce que c'est cette construction coloniale qui les a séparés des droits réels en les mettant dans les statuts personnels. Donc, en ce qui concerne le droit français introduit au Maghreb, là-dessus, je me réfère à un article écrit par une Anglaise dont je pourrais vous donner la référence. En ce qui concerne le droit français introduit au Maghreb par la colonisation, puis reconduit et généralisé par les régimes postcoloniaux, cette contradiction, donc la contradiction qui a été exporté par le système juridique européen entre les idéaux proclamés d'égalité et la négation des droits des femmes. Cette contradiction d'ailleurs qui se reflète dans l'attitude des féministes françaises dans l'entre-deux-guerres, là je me réfère à un article de Kimball qui dit « Alors qu'elle critiquait le Code civil de 1804 comme une source de l'inégalité des femmes françaises, elle préconisait son imposition en Algérie pour supplanter les vestiges du droit islamique ». Donc voilà les contradictions dans lesquelles se trouvaient les féministes françaises. Donc, cette contradiction prendra la forme d'un statut particulier, celui de l'indigène musulman, pour lequel est élaborée une législation d'exception. En Algérie, le code de l'indigénat, qui, sous prétexte de respecter la religion du colonisé, place celui-ci hors du statut de citoyen. Donc, Judith Surkis, que j'évoquais tout à l'heure, décrit la dissociation du droit foncier d'un droit familial musulman. En effet, parallèlement au Senatus Consulte de 1865, un ensemble de nouvelles lois contribuèrent à créer et distinguer un statut réel modifiable d'un statut personnel supposé musulman, supposé inaltérable. La séparation entre statut réel et statut des personnes était empruntée au Code civil. Cette législation figera pour longtemps la famille musulmane et les relations en son sien dans un cadre juridique archaïque, alliant la conception patriarcale issue du droit français à des éléments souvent les plus rétrogrades, puisés tant dans le corpus islamique que dans les coutumes locales. Notamment, beaucoup d'acquis des femmes, tant dans le droit musulman que dans la coutume, sont mis à l'écart et considérés comme des curiosités ethnographiques. C'est le cas précisément en matière de droit de propriété. C'est de cette législation d'exception que sont issus les codes de statut personnel, d'abord élaborés par des juristes coloniaux, le code Morand, puis repris et adaptés dans les régimes postcoloniaux, qui les reconduisent et les maintiennent séparés du reste du droit, étanches à toute évolution à l'échelle nationale et internationale. Donc, en conclusion, je me demande bon, si les modes d'accès des femmes à la propriété, qui, on l'a vu, n'étaient pas des droits égalitaires, mais à travers notamment la coutume et des statuts particuliers qui existaient et qui ont été largement détruits au 18e, 19e siècle en Europe, puis après avec la colonisation dans le reste du monde, serait-il le dernier bastion des formes coutumières et collectives de propriété ? À l'heure où la théorie des commons préconise de réhabiliter des formes collectives de propriété pour mieux protéger les ressources naturelles et l'environnement, la disparition de ces modes d'organisation humaine complexes et subtils légués par l'histoire est-elle un pas de plus vers l'uniformisation de notre monde, au même titre que la disparition de langues ou la destruction de la biodiversité ? On peut se demander si la manière dont est mis en application le principe d'égalité de genre dans l'accès individuel, donc qui privilégiait l'accès individuel à la propriété, n'est pas le coup de grâce donné à ces systèmes de droit déjà largement détruits par les processus d'acculturation. Voilà, donc là, j'arrêterai là et je vous remercie.
Donc, je vais... Merci beaucoup, Fatiha Talahid, pour cette présentation d'ouverture de la journée, où tu avais bien mis les problématiques sur le tapis qui seront discutées au fur et à mesure de la journée.